Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM. Voici venu l'heure de rejoindre le Nid de Pi pour une nouvelle émission. Merci d'être au rendez-vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'utilisation d'outils chez des bestioles aussi attendrissantes que fun, les loutres de mer. Puis j'aurai le plaisir d'interviewer Félix Pellerin, doctorant au laboratoire Évolution et Diversité Biologique à l'Université Paul Sabatier de Toulouse et à la station de Moulis. Il étudie les effets du réchauffement climatique sur des lézards vivipares dans une structure unique en France, le métatron. Bonjour Félix et merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Depuis que les humains étudient les animaux, ils cherchent désespérément à définir le propre de l'homme. Vaste problème aux réponses bien floues. On a longtemps considéré que c'était le rire qui faisait toute la différence, ou encore l'utilisation du feu, ou bien celle des outils. Or, on sait maintenant que les rats rigolent quand on les chatouille, et que des rapaces australiens, des milans, utilisent des branches enflammées pour faire sortir des hautes herbes les rongeurs dont ils se nourrissent. On a aussi découvert que de nombreux animaux sont capables non seulement d'utiliser des outils, mais aussi d'en fabriquer. Caramba, encore raté! Figurez-vous que l'acceptation que les animaux savent eux aussi utiliser des outils reste relativement récente. En effet, et même si un timbre du Liberia édité en 1906 montrait un chimpanzé pêcher des termites avec un bâton, il faudra attendre les années 50 pour que Harry Beatty décrive ses comportements dans un article scientifique. Et c'est la chercheuse anglaise Jane Goodall qui, en observant la vie quotidienne des chimpanzés, a pu enfoncer le clou à la fin des années 50. Il existe plein d'outils différents utilisés dans le règne animal. Rien que les chimpanzés, par exemple, pêchent des termites avec des bâtons, utilisent des marteaux et des enclumes pour casser des fruits et des noix avec des rochers, mais ils utilisent aussi différents outils successifs et très spécifiques pour récolter le miel des ruches. On a aussi pu voir que des oiseaux comme les corneilles de Nouvelle-Calédonie étaient capables de façonner des crochets à partir de brindilles qu'elles coupent et effeuillent pour pêcher des larves. Ou encore qu'elles savent découper des lamelles de feuilles de l'arbre pandanus qu'elles taillent en forme d'escalier pour hameçonner les insectes dans les troncs creux. Mais ce dont je vais vous parler plus en détail aujourd'hui, ce sont les loutres de mer que l'on trouve en Amérique. Vous voyez ? Ces animaux aquatiques, sympathiques, à la bonne bouille, au gros nez garni de moustaches fournies et au poil épais. On estime qu'un adulte a entre 800 millions et 1 milliard de poils, soit entre 100 000 et 400 000 poils par centimètre carré, alors que nous, humains, culminons à 100 000 cheveux environ sur l'intégralité du crâne. Ce qui fait de la fourrure des loutres la plus dense de tous les mammifères, pour les isoler de l'eau froide dans laquelle elles évoluent. Ce super manteau leur a bien entendu valu d'être traqué intensivement pour leur fourrure. Il s'avère que ces animaux sont connus pour dériver sur l'eau, sur le dos, et on a pu observer qu'elles utilisaient elles aussi des outils. Le premier article scientifique en fait mention en 1964. Elles prennent un rocher posé sur leur ventre comme enclume, un caillou dans leurs pattes en guise de marteau, et elles cassent des coquillages comme ça sur leur ventre en tapant avec un rythme parfois soutenu. Encore plus fort, on a découvert que les loutres de mer avaient des cailloux favoris. Leur outil chéri qu'elles gardent avec elles à tout moment dans une poche de peau qu'elles ont sous les aisselles. Maline. Cette utilisation intensive d'outils a alors suscité l'intérêt des scientifiques. Comment se transmet cette utilisation d'outils entre les individus ? Des analyses génétiques récentes, réalisées par une équipe de Washington et publiées en mars 2017 dans le journal Biology Letters, ont permis de tester si l'utilisation d'outils pouvait avoir une origine génétique et si les mères transmettaient ce savoir-faire à leurs petits par leurs gènes. Or, l'analyse de l'ADN mitochondrial de 153 loutres ne montre aucun rapport entre le lien familial et l'utilisation d'outils. Selon les chercheurs, cette absence de lien génétique pourrait s'expliquer par l'ancienneté du comportement chez les loutres au fil de leur histoire évolutive. Elles utiliseraient donc les outils depuis plusieurs millions d'années, bien avant les dauphins auxquels elles étaient comparées dans l'article, et chez qui on observe bien une transmission génétique de la mère aux petits au niveau de l'utilisation d'outils. Des observations complémentaires sur des loutrons orphelins qui n'ont pas pu observer leur mère révèlent que les petits savent spontanément utiliser des outils sans qu'on leur montre comment faire. Et en nature, les jeunes savent utiliser les outils bien avant d'être sevrés. Il reste encore beaucoup à faire pour mieux connaître ces animaux fascinants. Sachez que les loutres de Californie sont dangereusement menacées. On estime leur population actuelle à environ 3000 individus. Si vous voulez leur donner un coup de patte, n'hésitez pas à soutenir leur conservation et en apprendre plus sur leur mode de vie en allant voir le site otterproject.org. Et nous revoilà avec Félix Pellerin. Bonjour, remercie d'être avec nous. Donc vous êtes doctorant au laboratoire EDB, évolution et diversité biologique à l'université Paul Sabatier, mais vous travaillez également à la station CNRS de Moulis, dans l'Ariège, sur les contreforts des Pyrénées. Vous étudiez la réponse des espèces au réchauffement climatique et à la fragmentation du milieu chez le lézard vivipare. Tout un programme. Alors, racontez-nous ça un peu plus en détail. Tout ce qui est fragmentation du milieu, mais réchauffement climatique, vous pouvez nous en éclairer un peu plus là-dessus.
Donc le réchauffement climatique, je crois que tout le monde en a un peu entendu parler en ce moment. Il y a eu le rapport du GIEC qui est sorti il y a 2 semaines. Et donc c'est l'augmentation globale de la température moyenne de la Terre, mais aussi d'autres effets climatiques, l'augmentation de la pluviométrie ou l'augmentation des événements extrêmes. Et donc ça impacte les écosystèmes, les espèces et les individus. Et ça interagit avec un autre aspect du changement global qui est la fragmentation de l'habitat. Et donc la fragmentation de l'habitat, c'est le fait que l'entité spatiale occupée par une espèce devient fragmentée, devient morcelée avec des pertes d'habitat et l'augmentation de la distance entre des patches d'habitat restants.
Donc par exemple, les animaux peuvent se mettre en danger s'ils doivent aller d'un point A à un point B et que le milieu est dégradé à certains endroits, par
Exactement,
exemple.
Exactement, donc ça modifie le flux de gènes qu'on appelle entre les populations, donc le mouvement d'individus entre les populations. Mais également, ce qu'on a observé, c'est que le réchauffement climatique peut induire un changement d'aire de répartition des espèces, c'est-à-dire que les individus vont se déplacer pour suivre les conditions climatiques favorables.
Là où il y a de la nourriture, par exemple ?
Par exemple, ou alors juste typiquement, on a observé chez plusieurs espèces une augmentation, un déplacement vers des altitudes plus hautes.
D'accord.
Pour éviter d'avoir des températures trop chaudes en basse altitude, à cause du réchauffement.
Et ça, chez quelle espèce, par exemple ?
Chez le papillon, chez plusieurs espèces de papillons, par exemple, ou des changements latitudinaux, donc d'un déplacement dans l'hémisphère nord vers le nord de ces espèces. Et donc le problème, c'est qu'avec la fragmentation de l'habitat, les individus vont avoir du mal potentiellement à se déplacer, puisqu'il va y avoir des barrières, la dispersion, etc. Et donc ils vont être coincés aux endroits où il va faire de plus en plus chaud.
Mais les barrières, ce sont à la fois des barrières naturelles, mais aussi des barrières humaines, il y a les deux ?
Oui, donc dans le contexte du changement global, c'est majoritairement des barrières liées aux activités humaines, donc la construction de l'urbanisation ou la construction
des routes,
etc.
C'est vrai qu'on parle souvent, par exemple, l'été des crapauds qui se font écraser en masse parce qu'il y a des routes qui traversent l'endroit où ils doivent aller se reproduire entre leur mare et la forêt. Et
voilà.
Souvent,
typiquement, les autoroutes, c'est des grosses barrières à beaucoup d'espèces, notamment de mammifères, parce qu'ils ne sont pas capables de passer, même s'il y a quelques passages à faune. Mais voilà.
Malheureusement, souvent, c'est les voitures qui gagnent.
Oui.
Et donc, vous travaillez dans ce qu'on appelle un métatron, une installation plus que mystérieuse et qui, à ma connaissance, est la seule en France. Donc, à quoi est-ce que ça ressemble, un métatron ? Parce que pour moi, métatron, c'est un archange dans tout ce qui est l'histoire biblique. Et donc, je pense que je suis assez loin du concept.
Oui, c'est pas exactement ça. Alors, le métatron, c'est un système expérimental qui permet de manipuler à la fois la température, donc le climat, et la connectivité, donc la fragmentation. Donc comment ça se passe ? En fait, c'est dans un champ, on a 48 enclos de 100 mètres carrés chacun.
D'accord.
Donc les enclos sont formés avec des toiles, donc c'est fermé. Les écosystèmes à l'intérieur sont fermés, donc il n'y a pas de...
Les animaux ne peuvent pas du tout sortir ?
Non, par contre, l'air passe, etc. Il y a tout qui passe, mais pas les animaux ni les plantes.
La pluie aussi ? S'il pleut, on n'est pas à l'abri ?
Non. Okay. Donc c'est des conditions qu'on appelle semi-naturelles, parce que c'est naturel, mais quand même on contrôle certaines choses, et notamment le climat. Et donc ces 48 cages sont connectées, enfin peuvent être connectées par des couloirs, des corridors de 20 mètres de long.
D'accord.
Et donc chaque cage est reliée à une autre cage par un corridor et on peut ouvrir ou fermer ce corridor et donc modifier la connectivité entre les populations.
D'accord, donc c'est-à-dire que dans certains cas vous isolez des populations, on va dire, et dans certains cas vous pouvez permettre aux animaux d'aller d'un endroit à l'autre.
Exactement.
Sachant que vos différentes cages peuvent avoir des températures, un taux d'humidité différent.
Ouais, donc ça, on mesure tous ces paramètres-là, on continue, donc la température, l'hygrométrie, la luminosité.
Ah oui, donc c'est quand même beaucoup de variables.
Voilà, donc on a des sondes dans chaque cage qui nous permettent de mesurer ça, et puis ensuite on peut décider de faire des traitements plus ou moins humides, plus ou moins chauds, plus ou moins froids, etc.
Et est-ce qu'il y a d'autres espèces présentes dans ce métatron ? Parce que vous travaillez sur les lézards.
Oui.
Mais il y a sans doute d'autres animaux qui se baladent là-dedans ?
Oui, donc... Il y a des animaux que les chercheurs ont mis dedans pour les étudier, et puis il y a aussi d'autres animaux. Donc nous, on travaille sur les lézards, donc on a mis dedans. Mais il y a aussi toutes des communautés d'insectes, etc., qui sont présentes naturellement dans le système.
D'accord. Donc, et vous ne les avez pas mis là, ils sont arrivés tout seuls.
Ils sont arrivés tout seuls, ouais. Ils étaient déjà là avant, et donc, quand on a mis les cages, bah, ils sont restés. Et il y a aussi d'autres animaux qui sont étudiés, donc pas forcément en continu, mais il y a eu, par exemple, des papillons, la pierrite du chou, où il y a eu des crapauds et une autre espèce de lézard également qui a été étudiée dans ce système.
Ok, et du coup, il n'y a pas de risque de prédation sur vos lézards?
Non.
Il n'y a pas de prédateurs qui traînent à cet endroit-là?
Non, non. Donc justement, c'est aussi tout l'avantage, c'est que ça permet de contrôler vraiment la prédation, etc. Donc il n'y a pas de prédateurs dedans et il n'y en a pas qui peuvent rentrer non plus. Et les lézards ne peuvent pas non plus sortir du système, donc on peut vraiment suivre chaque individu, savoir qui est vivant, qui est mort, etc., au cours du temps.
Et vous suivez combien de lézards dans vos expériences? Vous avez combien d'individus?
Alors en moyenne, donc on a 250 adultes, et puis après ces adultes, ils font des petits, et on a 400 petits, qu'on appelle des juvéniles, par an à peu près.
Ce qui fait du monde, surtout si vous les appelez tous par leur petit nom ensuite. I feel like summer. Seven days. C'était Feels Like Summer de Childish Gambino. Vous êtes toujours sur Campus FM 94 FM dans l'émission Le Nid de Pi. Et je reçois aujourd'hui Félix Pellerin, doctorant au laboratoire Évolution et Diversité Biologique, qui nous parle de lézards et de réchauffement climatique. Alors nous en parlions juste avant, vous testez donc l'impact de fragmentation du milieu et du réchauffement climatique sur des lézards dans un dispositif particulier, le métatron, qui est décomposé en plusieurs cages dans lesquelles on peut faire varier la température, l'humidité, etc. Mais vous, au niveau de vos expériences, à quoi ça ressemble du coup une saison au métatron? Dites-nous tout.
Alors déjà, l'expérience que je réalise, c'est au sein de ma thèse, donc ça dure 3 ans, et on a fait deux traitements climatiques dans ce métatron. Donc on a pris des paires de cages, une avec où la température est la même qu'à l'extérieur, et une plus chaude de 2 degrés
D'accord.
en moyenne. Et donc ces paires-là, il y en a la moitié qu'on a laissé isolée, et l'autre moitié où on a ouvert le corridor,
D'accord.
donc les individus sont capables de bouger d'un climat à l'autre. Et donc le but, c'est de suivre comment les populations vont changer ou pas, comment les individus vont se répartir entre les climats, etc. Une saison de terrain, ça commence en mai, début mai, donc on capture tous les individus au métatron.
Donc il faut attraper tous les lézards en un.
Voilà, donc en pratique, on rentre dans la cage et on saute sur les lézards, hein, on les attrape.
Ce qui ne doit pas toujours être facile.
Ce qui n'est pas toujours facile, mais c'est assez marrant, il faut avouer. Et ensuite, on ramène tout le monde au laboratoire. Et puis, on fait plein de mesures sur eux à ce moment-là, parce que c'est le seul moment de l'année où on a les lézards à disposition.
D'accord.
Donc, on les mesure. On fait des mesures morphologiques. Notamment, on fait des mesures de coloration. Donc on
Ils ne sont pas tous de la même couleur.
Non, il y a de la variation et okay. on a des hypothèses. Et il a été montré des effets du climat sur le mélanisme des individus.
D'accord. Donc, selon qu'il fasse plus ou moins chaud, les animaux sont plus ou moins foncés?
Oui, exactement.
D'accord.
Donc il y a deux hypothèses à ce niveau-là. Soit les individus vont devenir plus clairs pour justement pas trop surchauffer.
Quand on s'habille en noir quand il fait chaud,
voilà,
etc.
Exactement. ou alors, l'hypothèse inverse, ils vont bronzer tout simplement et devenir plus foncés. Donc
D'accord.
tout ce qu'on a observé, c'est plutôt dans ce sens-là.
D'accord, ok.
Et puis on fait aussi des mesures comportementales sur tous les individus et notamment on fait des tests de ce qu'on appelle préférence thermique. Donc pourquoi on fait ça? Alors les lézards, c'est des organismes à sang froid, c'est des ectothermes, et leur métabolisme et leur physiologie dépend directement de la température extérieure.
D'accord.
Et donc il y a de la variation entre individus. Il y a des individus qui préfèrent le chaud, qui sont plus performants, donc un meilleur métabolisme en chaud, et d'autres à des températures un peu plus froides.
D'accord,
et nous, on veut estimer cette variabilité entre individus. Et donc, pour ça, on fait des mesures de préférence thermique. Et pour
ça,
donc, comment ça se passe? On a des grands terrariums allongés avec une source de chaleur d'un bout, et ça fait un gradient thermique le long
D'accord.
de ce terrarium. Et on lâche les lézards dans ces arènes-là, dans les terrariums, et puis on regarde où est-ce qu'ils se positionnent, combien de temps ils passent dans chaque zone, etc.
Ils sont tout seuls ou ils sont à plusieurs dans chaque
Ils sont tout seuls.
D'accord.
Donc on passe chaque lézard dans
cette
arène.
Tout seul dans son petit terrarium.
On le filme et après on analyse les vidéos après.
D'accord. Pour voir combien de temps ils passent plus au chaud, plus au froid,
ouais.
etc.
Et donc ça nous permet d'avoir une valeur moyenne de température préférentielle.
Et ça, vous le faites à la fois chez les adultes et chez les juvéniles?
Exactement.
Okay.
Donc en mai, quand on capture tout le monde, on n'a que des adultes. Alors la particularité de cette espèce, c'est que c'est une espèce entre guillemets vivipares, c'est-à-dire que les femelles, elles ont des œufs, mais elles gardent les œufs dans leur ventre jusqu'à ce que les petits soient développés.
Mmh.
Et donc, elles pondent quand même des œufs à la fin, mais ces œufs sont non calcifiés, c'est juste une petite membrane molle.
Donc, il n'y a pas de coquille dure comme un œuf de poule
non.
ou ce genre de choses.
Voilà.
Okay.
Et donc, du coup, quand elles pondent, maximum une demi-heure après, tous les juvéniles, tous les petits sont sortis des œufs et courent partout dans le terrarium.
Ok. Ce n'est pas des vrais vivipares, du coup. Les
non.
petits ne sortent pas tout formés
non.
de la maman. Quoi,
ils sont tout formés, mais ils sortent dans des œufs. Voilà.
Okay.
Et donc, on fait également voilà, ce même genre de mesure à la naissance sur les juvéniles. Donc,
okay.
donc c'est aussi pour ça qu'on les capture en mai, parce que les femelles sont gestantes, et ensuite, on a tous les juvéniles. On sait combien de petits a fait chaque femelle, etc.
Mais c'est pas compliqué, du coup, pour savoir où elles vont aller pondre? Ou alors vous les gardez en terrarium le temps qu'elles pondent?
Ouais, voilà,
c'est
on
ça,
les garde
okay,
en terrarium,
pour être sûr de les garder.
Donc après, voilà, on sépare les juvéniles, etc. Et ensuite, voilà, on fait toutes ces mesures-là sur les individus. Et puis ensuite...
Ce qui déjà prend un certain temps, parce que vous disiez qu'il y en avait quand même déjà un paquet de lézards.
Voilà, et puis surtout qu'on essaye de garder toujours le même programme pour chaque lézard. Donc notamment pour les juvéniles, quand ils naissent, ils ont un planning très serré à réaliser d'expériences... Donc au jour 1, ils font la préférence thermique, etc. Et le problème, c'est que les femelles ne pondent pas toutes en même temps. Oui. Donc ça s'étale sur un mois et demi, tous les jours, à faire des expériences.
Ok.
Et après, on lâche tout le monde au métatron, et puis ils font leur vie jusqu'à l'année d'après, et ils subissent le traitement climatique, là, ils peuvent bouger, etc. Et on les récupère l'année d'après, voir est-ce qu'ils ont changé, qui est vivant, qui est mort.
Parce que vous, du coup, en fait, une saison, donc vous disiez, ça commence en mai, oui. Ça finit en juillet, août, septembre.
Alors, on relâche les individus en juillet, d'accord. Mais après, on surveille quand même, on reste.
Oui, ça, en fait, vous continuez quand même à les suivre quand ils sont dans le métatron.
Bon, alors, on intervient le moins possible, d'accord. On les laisse parce qu'on ne veut pas les perturber. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est que fin septembre, on fait à nouveau une session de capture, juste pour estimer qui a survécu pendant l'été, comment ils ont grandi. Après, on les relâche directement et puis on fait la même chose l'année d'après. Donc, en gros, une saison, c'est de mai à mi-octobre, à peu près.
Ouais. D'accord. Où c'est des manips tous les jours?
Ouais, alors vraiment au début, les deux, trois premiers mois, ouais. Et puis après, ouais, c'est plus calme. Et puis on recommence en septembre.
Mais c'est pas compliqué, même si c'est des espaces de 100 mètres carrés par enclos, pour retrouver vos animaux d'une année sur l'autre. Ceux qui survivent,
voilà. Bah, on y arrive plutôt bien. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait plusieurs sessions de capture jusqu'à ce qu'on ne voit plus personne. On repasse plusieurs fois, même en voyant plus personne, pour être sûr qu'on n'est pas loupé.
Ok. Et pour l'instant, alors je sais que c'est la question qui fâche quand on est encore en thèse, mais du coup, après ces 3 ans d'études et de recherches, qu'est-ce que vous avez observé de beau?
Alors, ce qu'on a observé, donc j'ai analysé les résultats assez récemment, mais c'est que dans les environnements non connectés, donc quand les populations sont isolées, ce qu'on a observé, c'est que les populations deviennent plus jeunes en chaud qu'en froid, qu'en température actuelle.
D'accord.
Parce qu'en fait, les juvéniles en chaud grandissent beaucoup plus vite. Parce que la température permet d'augmenter le métabolisme.
Mais ça marche vraiment parce que ce sont des reptiles dépendants de la température ou ça pourrait marcher ailleurs?
Ça dépend un peu des conditions. Il y a des études qui ont montré que chez des marmottes, par exemple, c'était favorable. D'accord. Parce qu'en fait, ils ont des périodes d'activité plus longues, donc ils peuvent se nourrir plus, etc. Mais sinon, majoritairement, on a une diminution de la taille des individus à l'âge adulte. Donc
d'accord.
Là, c'est un peu différent. Donc, c'est ça le pattern global. Nous, c'est pas vraiment ce qu'on a observé, mais c'est comme ça. Chez cette espèce, ça a été démontré plusieurs fois. Donc les individus grandissent plus vite et donc ils peuvent se reproduire plus tôt. Donc souvent, ils se reproduisent à 1 an, alors que les autres, c'est plutôt à 2 ans.
D'accord.
Et donc du coup, ils font des juvéniles plus tôt. Et ensuite, par contre, ça peut être assez délétère à l'âge adulte et les adultes peuvent mourir plus rapidement.
Plus rapidement.
Donc du coup, ça accélère le cycle de vie des individus et ça permet ça rajeunit l'âge moyen des populations. Alors que, par contre, cette chose-là, ça n'a pas lieu d'être en connecté. Donc quand les individus peuvent bouger d'un enclos à l'autre, on n'observe pas ces différences entre enclos chaud et enclos froid.
Parce qu'ils peuvent choisir d'aller dans l'enclos qui les arrange au niveau de température ou...
Parce qu'ils peuvent choisir, parce qu'ils peuvent bouger, parce qu'il y a l'influence de chaque population sur la population connectée. Et donc le fait d'être connecté à un enclos froid, ça limite les effets du réchauffement.
Il y a moins de contraintes. Et...
Voilà. Par contre, ça a quand même un coût pour les populations qui sont en froid, puisqu'elles envoient des individus en chaud, etc. Et elles en reçoivent, mais qui ne sont pas forcément bien adaptés. Et donc ça, la densité globale des populations est plus faible dans ces cas-là.
Donc ça veut dire qu'au final, vous aurez quand même moins d'individus quand ils sont contraints dans un milieu plus chaud, ou ça n'aura pas d'impact sur le nombre d'individus au final?
Alors, de ce qu'on a observé, pour nous, on n'a pas observé ça.
Par
contre, on a des populations, quand elles sont isolées, il y a des populations qui sont éteintes, donc de façon stochastique, mais il n'y a pas pu avoir de recolonisation puisque c'est fermé.
Okay.
Alors que quand les populations sont connectées, on peut avoir des flux d'individus qui permettent de recoloniser ou d'éviter l'extinction des populations. Ce qu'on n'a pas quand c'est isolé.
Ok. Bon, mais plein de conclusions déjà prometteuses. On a hâte de lire la suite. Alors, pour celles et ceux qui veulent en apprendre plus sur le métatron, sachez qu'un petit film du CNRS tourné en 2013 est disponible sur Internet. Il s'intitule « Métatron, une nature en cage », avec « cage » au pluriel, et vous pouvez le retrouver sur le site videothèque.cnrs.fr. Encore merci, Félix. On a hâte de lire la suite.
Avec plaisir. Merci à vous.
Pour finir et pour faire suite au lézard de Félix, je voulais vous présenter un ouvrage qui vient fort heureusement d'être traduit en français. Il s'agit d'un bel album documentaire illustré intitulé John Proctor, la femme qui aimait les reptiles, écrit par Patricia Valdez et illustré par Felicita Sala, aux éditions Cambourakis. Alors, il faut dire que sous prétexte que les livres illustrés sont principalement destinés aux enfants, les adultes s'en détournent. Mais c'est à mon avis une grande erreur qui vous ferait passer à côté de quantité de livres de valeur, et celui-ci en fait partie. Cet album retrace l'enfance et la vie d'une femme née en 1897, et voici son histoire. John Proctor était une pionnière. Enfant, elle avait pour compagnon de jeu des lézards, et même à 16 ans, un bébé crocodile. Élève studieuse et brillante, sa mauvaise santé lui empêcha d'accéder à l'université après le lycée. Elle devint cependant, et ce dès l'âge de 17 ans, l'assistante du conservateur du département reptiles et poissons du Muséum d'histoire naturelle de Londres. Tellement ses connaissances naturalistes sur les reptiles étaient impressionnantes. La guerre 14-18 éclata et beaucoup d'hommes furent envoyés au front. Quand le vieux conservateur prit sa retraite, c'est John qui hérita du poste et quand la guerre fut finie, elle conserva sa place. Elle fit rénover les enclos de ses pensionnaires et était également capable de pratiquer des soins et des opérations chirurgicales délicates sur les reptiles. Elle présenta de nombreuses communications lors de colloques scientifiques, mais elle fut surtout connue pour avoir su apprivoiser les deux premiers dragons de Komodo à poser la patte en Europe, Sumba et Sumbawa, réputés extrêmement agressifs. Il la suivait partout lors de ses balades dans les allées du zoo de Londres. Elle décéda relativement jeune, en 1931, des suites de la maladie intestinale chronique qu'elle avait depuis l'enfance. Mais malgré tout, John Proctor ouvra la voie à de nombreuses autres femmes naturalistes. On peut encore voir son buste à l'entrée du pavillon des reptiles du zoo de Londres, celui-là même où le jeune Harry Potter libéra un boa constrictor à son insu. C'est donc définitivement un lieu qui mérite votre attention. Outre le fait que l'album dépeigne avec justesse le portrait d'une femme scientifique remarquable et peu connue, les illustrations pleine page sont sublimes. Le style évoque les dessins au crayon et à la craie grasse du siècle dernier. Les couleurs sont douces, le style rétro et le livre est à mon sens un succès. Je vous le recommande chaudement. C'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse à la technique, à toute l'équipe de Campus FM et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Je vous dis à dans 15 jours à 17h pour de nouvelles aventures animalières et d'ici là, gardez la pêche.